franceinter.fr. La revue de presse, Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Il s'appelle Ali Chari. Et sa mère Fatima fait partie des 86 victimes de l'attentat perpétré le 14 juillet sur la promenade des Anglais. Il s'appelle Ali Chari. Et comme ses frères et sœurs, il sera présent ce matin à l'hommage national rendu aux victimes à Nice. Et à Louise Colcombe, il explique dans Le Parisien l'importance qu'a pour lui la cérémonie d'aujourd'hui. À travers le président de la République, dit-il, c'est la nation tout entière qui va honorer la mémoire de ma mère, la nation tout entière qui va envoyer un message d'union et de paix. Et puis c'est aussi, avoue-t-il, une indispensable étape dans sa reconstruction, parce qu'il se dit hanté par cette nuit terrible du 14 juillet, des flashs qui lui reviennent quasi quotidiennement, malgré le soutien des psychologues, malgré les médicaments. Et il est hanté également par le sentiment d'impuissance et de culpabilité des survivants. Si lui-même n'est pas mort ce soir-là, c'est parce que sa mère l'avait, avec son père, envoyé déplacer leur voiture qui était garée en double file. C'est comme si elle avait su, comme si elle m'avait protégé une dernière fois. Mais pour elle, je n'ai rien pu faire, ajoute-t-il, en précisant qu'il a cependant ranimé deux femmes de 80 ans. Aujourd'hui, il décrit sa famille en lambeaux, car Fatima était le pilier de la maison. Mais il a toutefois décidé de ne pas sombrer dans le chagrin. Ali Rahi veut agir, élevé dans le respect absolu de la République. Il souhaite désormais s'investir pour relayer le message de paix que Fatima, à n'en pas douter, aurait elle-même professé si elle avait survécu. Il s'est ainsi rapproché de Latifa Ibn Ziaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah, dont l'association multiplie les interventions pour prôner le vivre ensemble en milieu scolaire. Je voudrais, explique-t-il, faire comprendre aux jeunes la chance qu'ils ont de vivre en France. Ce n'est pas un pays de mécréants qui leur veut du mal, non. Mais c'est un pays qui nous propose un avenir commun. Et pour s'intégrer, ils doivent se battre comme l'ont fait nos parents. Et Ali de citer un proverbe qui était cher à sa mère. Il faut connaître le goût du vinaigre pour apprécier celui du miel. Des paroles qui font du bien et un portrait qui fait du bien.
Et c'est donc ce matin, Frédéric, qu'aura lieu l'hommage national aux victimes, lesquelles, si l'on croit ce matin Libération, suscitent parfois la convoitise de structures peu scrupuleuse.
La double peine pour les victimes, c'est le titre à la une. Enquête d'Ismaël Alissat, qui s'est plongé dans le maquis des associations qui prennent en charge les rescapés du 14 juillet. Des associations rigoureuses pour la majorité d'entre elles, mais d'autres, en revanche, ont des pratiques un peu douteuses. Certaines flirtent même avec les règles de déontologie et orientent très rapidement les victimes vers quelques avocats qui se partagent les dossiers d'indemnisation. Des avocats qui pratiqueraient en outre des honoraires exorbitants, avoisinant les 20% quand on sait que l'indemnisation peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. 20% c'est donc colossal, sachant que selon le journal, des avocats se seraient déjà directement servis dans les premiers fonds d'urgence et les victimes ne voient même pas que cela pose un problème, se désole une juriste. L'enquête de mon confrère s'étonne par ailleurs de la naissance d'une nouvelle structure post-attentat, l'association de soutien aux victimes d'actes du terrorisme, association lancée mardi et que ses statuts définissent à la fois comme indépendante et patriote, oui. Et elle est présidée par une femme qui est membre du collectif Islamisation Basta. Les propos de cette dernière parfois flirtent avec le complotisme et flirtent également avec le Front National. Le FN qui d'ailleurs séduit de plus en plus les policiers et les gendarmes en France. C'est ce que montre l'enquête d'Anne Vidali dans l'Express, intérieur bleu marine. Plus de 50%, 57% des membres des forces de l'ordre souhaiteraient voir l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée. Et pour qui votent les cathos? Ça, c'est la question posée à la une du Parisien. Réponse, 80% des catholiques français votent traditionnellement pour la droite modérée. Dès lors, cet électorat est très courtisé par les différents candidats de la primaire à droite, sachant que parmi les plus conservateurs, ils sont là encore de plus en plus nombreux à se dire attirés par le vote Front National. Longtemps rétifs au FN, les catholiques pratiquants ont été près d'un quart à lui octroyer leur voix lors des dernières régionales. Et c'est un phénomène de fond, une tendance qui pourrait s'accentuer, de l'avis d'un politologue interrogé par le journal.
Autre phénomène de fond, c'est la descente aux enfers de François Hollande.
À gauche, plus personne ne croit en François Hollande, titre ainsi le Figaro, précisant que pour la première fois hier, Des poids lourds de la majorité ont exprimé leurs doutes sur sa capacité à briguer un deuxième mandat. S'il souhaite se représenter, Hollande ne se facilite pas la tâche. Ainsi expliquait Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, tandis que Claude Bartolone, président de l'Assemblée, affirmait qu'il se posait des questions sur sa volonté d'y aller. Quant à Manuel Valls, en déplacement au Canada, il a livré un commentaire pour le moins ambigu. Il faut de la dignité, il faut de la pudeur, il faut de la hauteur de vue. Commentaire suite aux confidences de François Hollande rapportées dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », livre dans lequel il a notamment estimé que la justice était une institution de lâcheté. Hier, face à la polémique, le chef de l'État a présenté des excuses aux magistrats. En clair, François Hollande dit n'importe quoi lorsqu'il reçoit les journalistes et il regrette tout immédiatement après. Se gausse ce matin Sébastien Lacroix dans l'Union. Le Monde expliquant pour sa part que les propos présidentiels s'abordent le dispositif de pré-campagne mis sur pied. Le président a peut-être finalement écrit là son épitaphe publique, une épitaphe de près de 700 pages qui, si on y regarde bien, s'apparente à un petit traité du parfait suicide en politique, analyse Pascal Coqui dans les dernières nouvelles Alsace. Une fin de mandat pathétique, estime de son côté Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, le Midi Libre, sous la plume de Jean-Michel Servent, parlant de son côté d'un sabordage politique, le chef de l'État venant de creuser un peu plus sa tombe. Sabordage politique, suicide politique, ses chances de prolonger son séjour à l'Élysée semblent pulvérisées, résume Alain Dusard dans l'Est républicain.
Et puis pour finir, Frédéric, vous nous conseillez la lecture du portrait signé par Anne-Sophie Mercier, c'est dans Le Canard Enchaîné.
Portrait d'une femme qu'on ne voit pas, une femme qu'on n'entend pas, une femme qui se tait, mais qui, il n'y a pas si longtemps, affichait pourtant son sourire et sa longiligne silhouette sur le papier glacé de la presse magazine. Cette femme, c'est Asma El-Assad, la douce épouse du sanguinaire dictateur syrien. Voilà maintenant des années qu'il massacre son peuple et Asma ne dit rien. Voilà des semaines que la ville d'Alep est bombardée quotidiennement et Asma ne dit rien. Elle laisse faire et même elle soutient. Portrait donc de cette ancienne banquière élevée au lait de la démocratie britannique. Elle a fait ses études au King's College et puis renoncé à Harvard où elle était admise pour épouser son cher Bachar, alors ophtalmologue à Londres. La presse à l'époque l'a trouvée absolument parfaite. Aussi classe et glamour que Rania de Jordanie, mais nettement moins fadasse et du reste jamais voilée, un petit côté Grace Kelly. Et une fois mariée, elle se lance dans le caricatif. Agriculture, culture, éducation, rien ne lui échappe. Asma El-Assad est alors la reine des bons sentiments. Sauf quand il s'agit des massacres perpétrés par Bachar. Des mails échangés par le couple, piratés par l'opposition syrienne et publiés dans The Guardian, montrent qu'elle a toujours défendu son époux. Sur les centaines de messages rendus publics, pas un seul n'exprime le doute. Et ce n'est pas le cas non plus dans les mails qu'elle envoie à sa famille, restée en Angleterre. Elle leur fait des petites commandes de bijoux. Un collier en turquoise, un autre en cornaline, un troisième en onyx et un dernier en améthyste avec des diamants, s'il vous plaît. Elle achève par ces mots. Je vous embrasse et surtout ne vous inquiétez pas, ici tout va bien.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.